Vous venez d'atterrir sur le plus bel endroit au monde, le lieu de tous les plaisirs. Bienvenue sur la base 180.
Bienvenue
à Madagascar.
Bienvenue dans Négatif, je m'appelle Thibaut Elie et aujourd'hui je suis heureux d'accueillir Robin Campillo. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de discuter du film que vous avez réalisé, L'Île Rouge, à l'occasion de sa sortie en salle le 30 mai 2023. Vous êtes surtout connu comme réalisateur, mais vous avez aussi collaboré avec d'autres cinéastes au scénario ou au montage. Citons les films de Laurent Canté, L'Emploi du Temps, Entre les Murs et l'Atelier, ou encore Planétarium de Rebecca Zlotowski. L'Île Rouge est donc votre quatrième long métrage après Les Revenants en 2004, Eastern Boys en 2014 et 120 battements par minute en 2017. Ce dernier était à la fois un film sur une époque au sens historique et un film sur un moment important de votre vie personnelle. Les années 90, votre engagement militant auprès d'ACT UP et ces années de lutte pour combattre l'épidémie du sida. Avec L'Île Rouge, vous continuez ce double geste, mêlant cette fois-ci une forme de fin du colonialisme de la France dans les années 70, une époque où vous étiez enfant dans l'ex-colonie française de Madagascar, puisque votre père était sous-officier dans l'armée de l'air et que la France possédait toujours une base sur le territoire malgache et que vous y habitiez donc avec votre famille. Mais avant de parler plus précisément du film, une première question, Robin Campillo, une question un peu rituelle dans cette émission. Quel mot est-ce que vous poseriez sur votre pratique pour décrire ce que vous faites en tant que créateur ?
Un seul mot ?
Un seul mot ou une expression
Alors, c'est quelque chose de... Je crois que je dirais que je fais des films pour lutter contre le sédentarisme, la sédentarité. Je fais des films pour lutter contre la sédentarité. Je fais des films pour me déplacer, pour me dépayser, pour me métamorphoser. Je fais des films qui parlent de métamorphose, qui parlent de moments charnières, de... 120 battements par minute, c'est le passage des années 80 aux années 90, le passage où notamment les gays, qui étaient les hommes gays qui n'étaient pas les seuls touchés, mais qui en tout cas en subissaient de lourdes conséquences de l'épidémie. Donc on subissait cette épidémie dans les années 80 et dans les années 90, on crée un nous politique pour prendre le pouvoir. Donc c'est ce moment charnière qui m'intéresse. Et là, c'est le moment charnière entre les années 60, c'est-à-dire au fond la fin des 30 Glorieuses et de la puissance coloniale française. Donc c'est les derniers feux de ce truc. Et le passage aux années 70, c'est où la France se resserre sur ses frontières à peu près, quoi. Mais voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et en fait, pour moi, depuis Eastern Boys, en fait... Je considère que il ne faut pas. Enfin, l'important pour un cinéaste, pour lui-même et pour les films qu'il fait, c'est de se laisser envahir par les autres, de se laisser bousculer par les autres et pas essayer de contrôler en fait la matière filmique qu'il met en place, quoi.
Tu te maquilles trop. Pour qui tu te maquilles comme ça?
Arrête un peu. Moi, j'aime bien vous regarder. Je sais, t'as toujours l'œil qui traîne. Tu me regardes dans des moments où on se croit seul, ou alors dans des moments où on n'a pas envie d'être regardé.
Dans L'Île Rouge, donc, vous faites le récit des derniers mois d'une famille française sur une base militaire de Madagascar. Avant que la France ne se retire complètement du pays. Vous vous êtes inspiré de l'expérience que vous avez vécue enfant, lorsque vous habitiez sur la base militaire 181 d'Ivato. De quels souvenirs, au singulier ou au pluriel peut-être, est-ce que vous êtes parti pour créer, écrire, scénariser cette histoire ?
Je suis parti de plein de souvenirs, et moi c'est ce qui m'intéresse, c'est que la réalité est totalement hirsute. En réalité, elle est quand même faite de choses absolument improbables, des choses qui, de toute façon, résisteront toujours à ChatGPT ou à ce genre de trucs, parce que la réalité est faite de choses totalement invraisemblables, tirées par les cheveux, comment dire, et aussi des choses qui ne sont pas cohérentes. Et moi, j'ai toujours peur de la cohérence des scénarios. Je préfère que les scénarios soient contradictoires, soient touffus. Et donc, je pars de ces souvenirs parce qu'en fait, c'est une espèce de matière à laquelle, bizarrement, je ne crois qu'à moitié. Je crois à moitié aux souvenirs. Évidemment, on sait que les souvenirs sont des reconstructions mentales de choses qui se sont plus ou moins produites. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est au fond, non pas convoquer à travers ces souvenirs des fantômes et ou de la nostalgie, mais recréer un présent, de réanimer cette chose-là. Et c'est vrai que voilà, je pars de ces souvenirs, mais en fait, après, je fais une construction, et c'est la construction, c'est l'architecture du film qui est la plus importante. Et c'est une architecture, en réalité, qui n'est pas une architecture qui veut délivrer un message. C'est une architecture, vraiment, qui se suffit à elle-même. On ne demande pas à un bâtiment de délivrer un message ou à une... voilà, c'est quelque chose qui est vraiment une construction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça marchait, tout ça. Comment ça fonctionne, tous ces souvenirs ensemble. Qu'est-ce qu'ils produisent ensemble. Et de toute façon, dans ces souvenirs, dans ces choses qu'on met ensemble... Il y a du sens, mais il y a une manière de fonctionner là-dedans. C'est pas la peine de forcer les choses. À un moment dans le film, je montre une scène que j'ai vécue, par exemple, sur le camp de vacances qu'il y avait à Nocibé. Un soir, on nous a projeté le Napoléon d'Abelganse. Je veux dire, je ne peux pas inventer un truc aussi fou sur la question de Colomb. Alors, dans un pays qui a déjà son indépendance, hein, je le rappelle, c'est quand même une situation très particulière, des colons en train de regarder Napoléon sur son radeau avec le drapeau français dans le film d'Abelganse, sur fond d'océan indien, j'ai pas besoin de pousser le sens. Je pense que les choses sont là, et que, comme disait Rossellini, les choses existent, c'est pas la peine de les manipuler tant que ça, en fait. Et c'est pour ça que cette matière, et c'était déjà le cas sur 120 battements par minute, au fond, la réalité dit des choses incontestables. Donc, et que quand on les met en place, on voit que c'est une espèce de puzzle. Et en même temps, il faut admettre que le film est un puzzle possible, mais ça n'est pas le seul. C'est là que le geste du réalisateur est important, c'est-à-dire que c'est une espèce de manière d'ordonner les choses qui ne sont pas mathématiques. Voilà.
Justement, par rapport à cette architecture dont vous parlez, cet ordonnement des choses, la première manière dont s'incarne votre film, ça va être au scénario. Mmh. C'est un document, un texte. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cet objet, dans justement l'organisation de votre récit et peut-être l'organisation de ce puzzle dont vous parlez?
Alors, d'abord, le scénario, il faut dire que, comme disent les Anglais, c'est pain in the ass, quand même. Franchement, si on pouvait éviter d'écrire un scénario pour faire un film, franchement, je m'en passerais. Mais en réalité, j'ai une amie, Pascale Breton, qui est aussi réalisatrice et qui me dit un truc que moi, je trouve aussi assez, assez juste. Elle me dit à la fin, on n'est pas loin du scénario. C'est comme si on était parti, on avait fait le tour, on a fait comme une révolution autour du soleil. Et en réalité, on retombe un peu sur ses pattes, etc. Et je crois que c'est assez juste. Le fait est que là, moi, j'essaye de penser le scénario de deux manières. D'abord, je fais un traitement d'une vingtaine de pages que j'écris comme j'écrirais une nouvelle. Un peu aussi pour m'exciter moi-même en essayant de me faire croire que je suis un peu écrivain, que j'ai un peu de style, etc. Et en fait, ça enchante ma vision du film, et je pense que ça aussi, ça enchante la vision du film que les techniciens, les acteurs, les techniciennes et les acteurs, actrices peuvent avoir du film. Alors, une fois que j'ai écrit ce traitement d'une vingtaine de pages, ça, c'est le moment un peu joyeux, et après, quand il faut passer vraiment à rentrer dans les détails, etc. Alors, moi, je sais que, par exemple, je résiste à mettre des numéros de séquences trop souvent. Je me demande si Eastern Boys, il n'y avait pas genre 10 séquences dans tout le film, la séquence de la fête ne faisant qu'une séquence, ce qui rend fou évidemment les premières assistantes ou les premiers assistants, parce que c'est après, on fait des 1A, 1B, 1C, enfin bon, c'est un enfer. Mais en fait, moi, pour moi, le cinéma a une telle continuité, ça a à voir avec une fluidité et pas du tout avec une rupture comme ça de séquences que j'essaye de travailler comme ça. Mais après, quand on commence à écrire le scénario, c'est-à-dire avec les dialogues, etc., on se cogne déjà à la réalité. On se cogne déjà presque un peu au tournage, en fait. Il y a un peu du tournage qui vient hanter, c'est-à-dire ce qu'on appelle le tournage, c'est-à-dire la négociation avec le réel, quoi. Dans la négociation. Et moi, voilà, c'est un travail qu'il faut faire. Et surtout, moi, ce que j'essaie de faire, c'est que je sais que c'est un travail, c'est comme des travaux d'approche. C'est comme si je devais découvrir des ruines enfouies sous la terre et que je commençais par déblayer le maximum, mais sans toucher quand même à la structure. Et c'est vraiment après, quand je suis sur le tournage, que les choses se mettent en forme, parce que en fait, on a beau anticiper les choses, et alors là, sur ce film-là, où il fallait aller tourner à Madagascar et qu'on ne pouvait pas y tourner, donc il a fallu tourner quand même des scènes en France, ça a été quand même un bordel infini. Et c'est vrai que voilà, encore une fois, moi, comme le personnage d'Eastern Boys, je face à l'adversité, voire de l'hostilité du réel par rapport à mon beau programme qui était le scénario, j'essaye de faire bonne figure et je me dis bon ben il faut que je participe à cette fête qu'est le tournage et tant pis si c'est pas comme je veux et tant pis si je me sens au fond plus manipulé par les autres, par le climat, par les objets, etc. que je ne les contrôle. Et donc voilà, c'est un peu d'un seul coup le scénario change un peu, les dialogues changent un peu, parce que c'est fou, même après avoir répété avec les comédiens certaines scènes, quand vous êtes sur le tournage, vous apercevez que ça n'a pas d'intérêt, qu'il faut faire autre chose, etc. Et là, vous réécrivez, etc. Donc tout ça fait souffrir, mais franchement, je trouve qu'il vaut mieux souffrir que s'ennuyer, quoi, sur un tournage. Et c'est ça qui m'excite un peu. Donc en fait, le tournage hante un peu, pour moi, l'écriture du scénario, et le travail du scénario continue sur le tournage, et continue même sur le montage. Je trouve que ce qu'on travaille, c'est une matière, en fait. C'est vraiment ça, le cinéma. C'est une matière filmique qui n'arrête pas de se métamorphoser, qui n'arrête pas ça mérite d'être retravaillé tout le temps, quoi.
Je n'ai fait des pays, hein. L'Algérie, le Maroc, le Tchad. Je n'ai jamais vu un pays aussi beau.
Eh oui. C'est-à-dire qu'il va falloir se résoudre à quitter toute cette beauté.
Ici, sur le camp de vacances, ils sont déjà en train de tout remballer. Dans 2 semaines, toutes les tentes seront repliées et il n'y aura plus rien.
Déjà ?
Ben oui. On savait que ça devait arriver un jour ou l'autre.
J'ai entendu le général Mathieu en parler la dernière fois. C'était au mess des officiers pour son anniversaire. Il semblait déjà très inquiet. J'ai pas tout entendu parce que je travaillais, mais ce que j'ai pu comprendre m'a paru assez clair.
Vous savez, je crois qu'on a eu raison de prêter main forte à l'armée malgache l'année dernière. Il fallait réprimer au plus vite les émeutes de paysans dans le sud. Mais bon, la population commence à nous en vouloir. Les étudiants à Tananarive pointent la responsabilité de la France. Les lycéens ne veulent même plus apprendre le français. On aurait peut-être dû garder nos distances si on voulait préserver notre position stratégique dans l'océan Indien. Mais bon, on ne va pas réécrire l'histoire.
Ce qui frappe au visionnage de votre film, c'est l'entrelacement de toutes les lignes narratives. Alors j'essaie d'en faire la liste, mais c'est compliqué parce qu'elles sont à la fois entremêlées et interdépendantes. Il y a la vie de la famille Lopez, les escapades réelles de Thomas avec ou sans son amie Suzanne, les aventures de Fantomette, la famille Gage et le couple que forment Bernard et Miangali, la révolution en cours à Madagascar à travers notamment les yeux de ce personnage, le retrait de l'armée française et plus la veine géopolitique. Comment est-ce que vous avez pensé cette forme d'égalité aussi entre vos personnages, parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément de personnage principal, même si on sent quand même le film à travers
l'enfant, ouais.
Le regard de Thomas.
Moi, de toute façon, je c'est fou. Une des choses que j'essaye de faire dans mes films, ça aurait pu être d'ailleurs la réponse à votre première question sur qu'est-ce qui peut me définir, c'est le cinéma souvent choisit son camp. Soit il est du côté de l'intime, et donc il est plutôt du côté soit de la romance, soit du drame, etc. Soit du côté du collectif, et donc qui serait le politique. Moi, je pense que le politique, c'est comment s'articule l'intime au collectif. Donc, on peut pas les opposer. En fait, ils fonctionnent ensemble et ils se contrarient mutuellement. C'est même cette friction-là qui me paraît la fiction ultime. D'ailleurs, quand on reprend le Abel Gance, c'est la scène de la tempête, c'est quand même Napoléon seul sur son radeau face à une assemblée nationale en ébullition. Et c'est très très fort, cette espèce de contraste là. Et moi, pour moi, c'est je pense que le par exemple, le personnage de Thomas, c'est un personnage, évidemment, on dit c'est vu par ses yeux, et en même temps, c'est vu un peu comme si lui était un peu absent. C'est une présence paradoxale, et moi qui m'intéresse, parce que aussi j'avais l'impression quand j'étais enfant d'être une auberge, que mon cerveau était une auberge espagnole. J'ai l'impression que j'étais traversé par les gens au point, comme dit Gide dans La Porte Étroite, dans un oubli de moi. Et c'est vrai que j'adore cette question de la position de l'enfant qui est à la fois démiurge alors que ça n'est qu'un enfant, et en même temps qui ne saisit pas très très bien les tenants et les aboutissants de sa vie, quoi, les tréteaux sur lesquels sa vie est construite, quoi. Et après, sur les autres personnages, pour moi, il y a un truc très fort, et je trouve que d'ailleurs les acteurs existent encore plus au fond dans le collectif que dans le portrait pur, etc. C'est ce que me dit Adèle Haenel quand elle a tourné dans Un battement par minute. C'était quand même la seule actrice connue. Et j'avais l'impression qu'elle avait un plaisir à être dans un collectif qui fait que moi, j'avais l'impression qu'elle ressortait très fort. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est... De donner, ça renforce les personnages de sentir qu'ils appartiennent à un monde et qu'ils sont un peu interdépendants, etc. Et pour moi, c'est vraiment une recherche aussi de relais. Là, pour le coup, par exemple, dans ce film-là, la famille est très prégnante, elle est très forte. Et comme dit Colette un moment dans le film, on est comme dans une caravane, toujours les uns sur les autres. Mais l'enfant... Son regard, c'est aussi un regard d'ouverture vers le monde et donc de regard vers l'horizon au-delà de sa famille. C'est-à-dire et donc il découvre des personnages qui l'intriguent et aussi il boit le regard de sa mère qui elle-même est intriguée par d'autres personnages. Et donc c'est une espèce sans arrêt de triangulation du regard en fait. Et au fond, au fur et à mesure, cet enfant découvre aussi... Il découvre la métamorphose de son regard, sans savoir si c'est les autres qui changent ou si c'est son regard sur les autres qui change, qui se modifie, qui se métamorphose. Et moi, c'est ça qui me plaît dans le cinéma, c'est cette incertitude-là. Le film, quand je parle de souvenirs, il m'intéresse aussi parce que le film n'est pas un film historique pur, même si j'ai vu des historiens, même si j'ai beaucoup discuté aussi avec Jean-Luc Raharimanana, qui est un écrivain malagasy et qui a écrit beaucoup sur plein de périodes de Madagascar. Il a écrit des bouquins extrêmement beaux là-dessus et qui m'a donné aussi un peu le contre-champ, qui m'a aidé aussi sur le contre-champ malagasy du film, parce que c'est très difficile à imaginer seul quand on est français, enfin voilà, et même si on a connu cette époque. Et c'est vrai qu'en fait, cet enfant, d'un seul coup, se focalise sur d'autres personnes et que ces autres personnes sont des personnages relais qui, d'un seul coup, l'emmènent vers un ailleurs, vers une autre vision de ce monde. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le fait que ces personnages se répondent et qu'en fait, c'est tout un peuple qu'on découvre. Pour moi, il y a des films comme le Satyricon de Fellini. Vous voyez, à la fin du Satyricon, on voit cette fresque qui s'effrite où, en fait, on a mis tous les personnages du film sur cette fresque et la fresque est une ruine. Et je trouve ça toujours très, très beau de les portraits de groupe. Parce qu'en fait, pour moi, ça dit plus l'intime que les films purement intimistes. Pour moi, l'intime apparaît beaucoup plus en repoussé que dans des films qui essaieraient de fouiller au fond de manière un peu systématique l'âme des gens qui sont devant la caméra. Et j'y crois pas beaucoup à ça. Je préfère être avec vous en train de discuter que d'être seul. Vous voyez? Donc c'est toujours plus intéressant.
Alors c'est sûr qu'on va s'en aller. C'est moi aussi, j'aurais préféré rester ici, mais il faut rentrer en France.
On va aller où en France?
On n'en sait rien. Papa n'a pas encore eu sa mutation.
va peut-être aller dans un autre pays.
Non, il n'y a plus d'endroit comme ici où on peut aller. C'est fini.
Moi et ma famille, on va rester ici.
Ah bon?
Oui, on part pas.
Pourquoi on ferait pas comme eux?
Parce que c'est pas nous qui décidons.
Vous avez mis aussi beaucoup de votre vie, de votre enfance dans ce film. Est-ce que, plutôt qu'autobiographique, vous décririez votre geste comme un geste d'autofiction?
Peut-être, oui. Oui, oui, c'est vrai que c'est plutôt, encore une fois, c'est pas, c'est de me projeter et de projeter ce que j'ai été dans autre chose, qui a une part de vérité et une part de presque de mensonge, enfin en tout cas d'illusion ou de choses de construction mentale comme ça, puisque c'est avec mon recul que je repeins mon enfance. Mais c'est vrai que c'est important parce que je prends mon enfance comme une ressource aussi formelle en fait. Et en même temps, je recherche c'est quoi les prémices de ce que je suis, de ce que j'ai été et qu'il y avait dans cette enfance. Et notamment, par exemple, il y a un truc qui m'a frappé, dont je me suis aperçu, c'est quand l'enfant sort la nuit sur la base militaire, c'est mon goût pour la nuit et la clandestinité. C'est quand même c'est très très étonnant.
C'est quelque chose que vous avez fait de sortir
Je l'ai vraiment fait, oui. Je suis vraiment sorti sur la base militaire habillé en fantomètre. Heureusement, personne ne m'a croisé parce que ça aurait été quand même un truc très très embarrassant. Mais c'est un des trucs dont je suis le plus fier dans ma vie, d'avoir fait ça. C'est quand même. C'est à la fois très mignon, très joli, en même temps, c'est une vraie transgression. De s'habiller dans un personnage féminin, de sortir dans la nuit, sur une base militaire, etc. Je vous avoue, dans la réalité, j'ai dû sortir une demi-heure, ou peut-être une heure maximum, et j'ai eu peur de mon ombre à tous les coups. Mais je me souviens du moment où j'ai sauté par la fenêtre comme d'un élément libérateur, et qui disait aussi un petit peu ma méfiance par rapport à la famille, c'est-à-dire j'ai toujours considéré que la famille, moi, c'était un peu comme une somme de solitude, en fait, comme une cellule. Je trouve la cellule familiale, les parents se choisissent, et encore à l'époque, ils se choisissent très vite. Est-ce qu'on peut se dire qu'ils se choisissent vraiment? Il y a un peu ce sentiment, comme disait Bourdieu, de la promise, hein, ce terme absolument atroce, que pour un homme dans un village, il y avait une promise, quelqu'un qui correspondait parfaitement à ce qu'il désirait. Ça en dit long quand même sur la possibilité du choix, encore plus pour les femmes. Les enfants n'ont pas choisi. Donc en réalité, la cellule familiale est peut-être une des choses les plus aléatoires qui soit, et au fond, voilà, il y a ce truc-là, moi, auquel j'essayais d'échapper, et en même temps, j'étais très heureux dans ma famille, c'est-à-dire que c'est toujours ce paradoxe de la famille, c'est qu'on ne veut pas en être, et on en a un peu besoin, donc voilà, parce que c'est juste pour des questions de sécurité, mais effectivement d'amour, d'affection, etc. Mais l'affection et l'amour, c'est aussi des sécurités. C'est des je sais plus qui disait, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des attachements. C'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça dont on a besoin. Il faut arrêter de rêver. C'est pour ça que quand on se pose la question, est-ce que le couple, c'est bien, etc. Bah, c'est-à-dire que si c'était vraiment pas bien, on le ferait plus du tout, quoi. Je pense qu'on est quand même maintenant assez libre pour, et pourtant on repasse par ces phases-là, par ces structures-là. Alors on peut être en plus à trois, on peut être, on n'est pas obligé de croire à la fidélité. Enfin tout ça, c'est effectivement un peu libre, hein, bien sûr, mais ça reste quelque chose, quoi.
Ah, il paraît qu'il est fou d'elle, il veut l'épouser et rester ici.
Ah, il paraît surtout qu'elle lui a jeté un sort.
Non, mais pas un sort. Vous y croyez à ça?
Bah oui.
Il est jeune, c'est tout. Elle a dû lui faire des trucs au lit qu'il connaissait pas, alors il est tombé amoureux.
Mais non, enfin, elles font tout ça ici, c'est connu.
Oui, il y a plein de jeunes appelés qui se font avoir comme ça. Regardez, il y a le père Bertin qui mène sa petite enquête.
Qu'est-ce qu'il va faire, tu crois?
C'est lui qui pratique l'exorcisme.
Et comment il fait ça?
Oh, avec des prières, sans doute. Une cérémonie, personne ne sait vraiment.
Ah, j'espère quand même qu'il va réussir à sauver ce pauvre gamin.
Parmi les gestes formels de votre film, et il y en a plusieurs, il y a toute cette dernière partie ce dernier acte, je ne sais pas trop comment on pourrait le définir, qui est révolutionnaire, mais sur plusieurs aspects, c'est-à-dire que vous changez totalement de point de vue. Ce qui a été, ce qu'on a vu des personnes qui ne sont pas françaises, une sorte de vague qui part de ce moment où Thomas fait son escapade. À quel moment de la création est intervenu ce geste révolutionnaire que vous faites?
C'est-à-dire que moi, le film, quand je suis revenu de Madagascar, quand j'étais petit, j'avais de la nostalgie vraiment de Madagascar. Dans les quelques années après, tout en sachant qu'il y avait un truc qui n'était pas... Parce que la prise de conscience qu'a un tout petit peu l'enfant dans le film, moi, je l'ai eu plus tard, pour être honnête. Mais sur la question, en fait, du paradis perdu, qui est un paradis volé, en fait, c'est aussi simple que ça. C'est vrai que cette nostalgie a disparu et tout le monde me disait, même quand j'avais, pendant très longtemps, on m'a dit, mais pourquoi t'es jamais retourné là-bas, etc. J'avais pas envie parce que je trouvais que c'était très bizarre pour moi de retourner là-bas. C'était comme si on voulait réanimer le bonheur, etc. Donc c'était des choses qui me... Et en plus, je suis quelqu'un qui est assez mélancolique, mais je suis pas du tout nostalgique. Ça ne m'intéresse pas. J'adore le présent. Même en vieillissant, je préfère le présent à me projeter dans le passé. J'avoue que ça ne m'intéresse pas, même si je fais des films là-dessus. J'avais pas envie, je voulais le faire, retourner là-bas, c'était dans une perspective de faire ce film-là, et donc en fait de déchirer le rideau de la nostalgie coloniale pour en voir les coulisses, quoi. C'est-à-dire pour moi c'était au fond rendre le film au Malagasy, quoi, et de le faire, encore une fois, de manière intime et de manière collective. Donc en fait, dans le film, ça passe par un personnage qui s'appelle Myangal, qui est joué par Amélie Rakoto Rimalala, et qui est qui a été une chance pour le film, parce que je trouve que c'est une actrice assez extraordinaire. Et c'est vrai que quand on a ce personnage dont on pense que c'est une jeune fille lisse, Malagasy, avec un peu ce fantasme, elle est amoureuse d'un jeune Français qui est très naïf et qui se révèle pas si naïf que ça, en fait, etc. Et pour moi, c'est elle qui... On part avec elle. C'est-à-dire qu'on part avec sa conscience, sa clairvoyance, le fait qu'elle se rende compte un tout petit peu de la situation et que, surtout, elle sent que le pays est hanté par les Vazas, par les Blancs, les Français. Et que c'est elle qui nous emmène à la révolution. Mais la révolution, et pour moi c'était un truc très important, la révolution passe, on la voit passer devant la base militaire. Parce que les Malagasy, qui étaient très jeunes, c'est souvent des étudiants, voire des lycéens qui faisaient cette révolution quand même, s'en prenaient à leur propre gouvernement, puisque le pays était, dans la fiction française, était indépendant. Ils l'ont fait dans une espèce d'ignorance, même s'il y a eu des événements contre les Français, etc. Mais c'était quand même dans une espèce d'ignorance des Français. Et elle voit passer, en sortant de la base, elle voit passer cette révolution au fond comme un train qu'elle peut ou ne pas prendre. Et elle le prend. Et pour moi, quand on parle de l'intime et du collectif, ce qu'on apprend d'elle dans la scène précédente, de sa vision des choses, qui sont, c'est pas une vision d'une militante, c'est une vision d'une personne qui a une clairvoyance, elle prend le train de la révolution. Et une révolution, ça n'existe pas parce que d'un seul coup, la population, le maximum, une majorité de personnes seraient devenues militantes. Ça fonctionne parce que des militants ont créé un mouvement dans lequel des personnes qui ont une conscience naissante peuvent s'intégrer. Et pour moi, c'était ça, cette scène. Et c'est vrai que le fait que de montrer ce truc-là et de voir que cette jeune femme fait partie d'un tout, et que ce tout-là, c'est marrant parce que le film se termine aussi avec des discours politiques. Alors on peut se dire, c'est un peu, il y a toujours un truc dans le cinéma, c'est quand les gens font des discours politiques, on dit ça devient comme un documentaire, etc., comme si le discours politique ne pouvait pas faire partie de la fiction, ce que je trouve moi totalement absurde. Et en fait, le discours politique, à la fin du film, c'est la manière dont les Malagasy arrêtent, et d'ailleurs c'est un peu le sens de la chanson de la fin, arrêtent, cessent d'être des enfants, d'être considérés comme des enfants par les Français, et produisent du discours politique. Et c'est comme s'il dressait le procès-verbal de tout ce qu'on avait vu avant. Et pour moi, ce geste-là, c'est au début du film, au départ du film, c'est ce geste-là que je voulais faire. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'en travaillant là-dessus, vous voyez, comme encore une fois, la question de la matière, le réel, dit plus de choses que ce qu'on a à dire. C'est-à-dire que, donc, c'est pour ça que courir après un message qui serait préexistant au réel, c'est totalement absurde. La chanson de la Révolution, que j'utilise à la fin du film, une chanson du groupe Mahaleo, qui s'appelle Veluma, c'est un au revoir à l'enfance. Au revoir mon enfance, il faut se quitter maintenant. Maintenant, il faut prendre les choses en main, mais aussi prendre du plaisir, faire des conneries, etc. Tout ça. C'était le chant vraiment 72, d'un des chants de la Révolution. Je trouve incroyable ce que ça dit, au fond, sur la fiction que moi j'ai mise en place, sur la question du regard de l'enfant, de ce que c'est la clairvoyance, la clandestinité, etc. Et aussi la découverte de l'autonomie pour l'enfant, et du regard autonome et de son petit corps hein, qui se promène sur une base militaire la nuit, en autarcie, comme ça, en autonomie, pardon. Et voilà, d'un seul coup, les choses se bouclent, mais d'elles-mêmes, sans que j'ai à forcer le trait, sans que j'ai à devenir démiurgique par rapport au film, quoi.
On approche de la fin de cet entretien. Quels sont vos prochains chantiers visuels en cours ou futurs
Alors, j'ai plusieurs films en tête. Il y a un film d'anticipation sur qui se passe dans des espèces de domaines un peu naturels dans le futur où des nantis, en fait, des nantis habitent là et en fait, ils animent et ils protègent un peu la nature. Et en fait, ces lieux sont financés par les vacances des plus pauvres qui viennent une semaine par an dans ces lieux. Et c'est sur le portrait d'une femme vieillissante qui voit apparaître dans sa vie une espèce d'être un peu mystérieux qui va devenir une espèce d'auxiliaire de vie, mais qui va la pousser aussi vers la sortie. Donc, en gros, voilà, c'est ça. J'en dis peut-être un peu trop, mais bon, voilà. J'ai un film aussi sur une autre période de ma vie, mais que je vais essayer de faire plus tard parce que je commence à en avoir un petit peu marre, qui est sur le passage des années 80 aux années 90, qui est au fond, juste avant l'épidémie de
des 70 aux années 80.
Des 70 aux années 80, oui. Et qui s'appelle Un temps déraisonnable. Et j'en ai un troisième qui est un truc assez mystérieux sur un couple gay. Je ne sais pas à quelle période ça se passe, mais où un type plus âgé, qui doit avoir 50 ans et son amant a 30 ans, fait des expériences médicales sur son petit copain. Donc c'est une chose assez obscure même pour moi, donc voilà, je peux pas en dire plus.
Vous avez déjà écrit les scénarios ou c'est
encore... Non, c'est en écriture, mais encore une fois, je suis très lent. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai des espoirs de casting, enfin avec des actrices un peu connues, etc. Voilà, donc... Mais je ne peux pas dire qui, évidemment. Donc voilà. Mais tout ça m'excite assez. Et encore une fois, moi, j'aime bien, quand je fais un film, de faire un film, de changer complètement ma vision des choses, ma manière de travailler, etc. Et donc, j'espère découvrir des nouveaux mondes.
De nouveaux territoires voilà. Formels. Voilà. Aussi. Eh bien, merci à vous, Robin Campillo.
Merci
d'avoir participé à ce nouvel entretien de Négatif. Négatif, c'est aussi un site internet, négatif.co. N'hésitez pas à vous nous suivre sur vos applications de podcast, Spotify, YouTube, etc. À bientôt. Veluma, veluma, rifa, zazana. Veluma, veluma, fa e facita mana. Veluma, fisao. Sia faca etana, veluma, veluma, deca fagiana. Avelavu, avu, amo i fumangina, nitieu acatinau, acatinau ritina, turimasu,
Sa ka fusi lalavu nuni araiju Sa Fate sana ne facia su yalla
yo yeah.